Clermont n'est que ce pan de manteau noir, ce voile d'une vierge tannée par les rues de soleil de la fuite, noir de la nuit des crânes, d'une sécheresse qui touche à la calvitie. Ce sont par ces descriptions lyriques, comme il y en a beaucoup dans ce livre, les volcaniques, que l'Auvergne se dessine. Les volcaniques, c'est un bouquin de 127 pages qui parcourt la région, tantôt avec nostalgie, tantôt avec mélancolie, parfois avec ironie et même parfois avec un peu de mystère. Les volcaniques, c'est aussi une foultitude de personnages, parfois connus, parfois non, mais dont le moindre récit, la plus petite anecdote, se glisse dans la grande histoire régionale. Les volcaniques, c'est le dernier livre de Simon Berger qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous Simon.
Bonjour Jonathan.
Merci Simon d'être avec nous sur RVA. Simon Berger a seulement 27 ans, vous sortez déjà votre troisième ouvrage après Laisse aller ton serviteur et Jacob. Il s'agit des volcaniques que nous avons sous les yeux, un essai paru aux éditions d'Esclé de Brouwer. Sur la quatrième de couverture, alors on peut lire cette phrase « L'Auvergne dévoile au fil de cette pérégrination littéraire son exigeante beauté millénaire encore trop méconnue ». Moi, ce que j'avais envie de savoir pour commencer, c'est qui se dévoile finalement cet ouvrage ? Est-ce que c'est l'Auvergne ou est-ce que c'est vous, Simon Berger ?
Ah, c'est une excellente question et ça commence déjà par une question piège quasiment. Non, c'est une très bonne question et je pense que vous la posez à dessein parce que vous savez que je suis auvergnat et donc forcément, quand on parle de la terre de ses origines, la terre de ses ancêtres, la terre où on a grandi, la ville où on a grandi, Clermont en l'occurrence, on parle forcément de soi. Et il est vrai que la marche en dit à peu près autant sur le paysage que sur le marcheur lui-même. Oui, je ne vais pas faire celui qui se cache. Effectivement, je parle de moi. J'avais déjà, dans le précédent ouvrage que vous avez cité, Jacob, fait de Clermont un personnage littéraire quasiment, parce que je pense que c'est une ville assez féconde à ce niveau-là. Donc j'avais déjà situé une intrigue dans Clermont. Mais cette collection chez Desclés de Brouwer invite à envisager de manière plus frontale le rapport qu'on entretient avec une terre, une ville, un monument. Et c'était l'occasion pour moi de revenir là-dessus de manière peut-être plus approfondie plus personnelle. Et justement, c'est là que vous touchez juste. Effectivement, c'est que là, il n'y a pas, on est débarrassé des artifices d'une intrigue. J'ai essayé, pour satisfaire les exigences de cette collection qui tout de suite m'a plu et m'a intéressé, j'ai essayé de m'affronter à mon propre rapport intérieur avec cette terre, en effet.
Justement, commençons par le commencement. Simon Berger, expliquez-nous comment vous avez construit ce livre, parce que vous n'étiez pas que dans votre bureau, au fond d'une chambre, en train d'écrire.
Non.
Vous êtes allé sur le terrain.
Oui, exactement. Et là encore, c'est un terrain de paresseux. J'ai la chance d'avoir mon terrain par cœur dans la tête depuis 20 ans, puisque j'ai vécu 20 ans pleinement à Clermont avant de trahir pour la capitale, je l'avoue. Mais voilà, j'avais ces paysages en tête et puis on se lasse pas de les arpenter. Comme le titre même de la collection « Arpenter le sacré » le dit, il faut arpenter, réarpenter ces terres-là. Et d'ailleurs, pas se reposer sur ses lauriers. C'est pas parce qu'on vient de l'Auvergne qu'on la connaît forcément ou qu'on peut prétendre la connaître par
cœur. On la connaît mal, justement, quand on y est.
Oui, c'est ce que vous avez lu sur la quatrième. Je pense que si l'éditeur a cru bon de mettre ça, c'est que lui-même, ça l'a interpellé. Je pense effectivement que l'Auvergne a cette... Mais Pierre Jourde en parle très bien, à cette beauté noire, justement, qui fait qu'elle se dérobe avant de se donner. Elle ne se montre pas au premier coup d'œil, une beauté assez modeste et assez rugueuse, assez exigeante. Et oui, j'avais envie de revenir là-dessus. Je pense qu'on ne dit pas tout de l'Auvergne en un livre, donc il y en aura peut-être d'autres, méfiez-vous. Mais oui, vous avez raison. Oui.
C'est un voyage initiatique, on pourrait utiliser ce mot, pas quand on parle de ce bouquin, les volcaniques, un voyage sur vos terres, celles que vous connaissez, ou en tout cas que vous prétendiez connaître avant peut-être d'écrire.
Et bien là encore, initiatique peut-être pour moi au premier chef, puisque l'expérience même de revenir dans sa ville d'origine en n'y habitant plus, donc dans cette espèce d'entre-deux à mi-chemin du tourisme et de la familiarité, permet de voir des choses qu'on n'avait jamais vues, de revoir sous un autre angle d'autres choses. Donc il y a une initiation ou une réinitiation pour moi. Et il est vrai que j'espère que les lecteurs partageront aussi qu'ils connaissent ou non l'Auvergne.
Alors arrêtons-nous un instant sur ce titre, les volcaniques, ouais. Simon Berger. Qui sont les volcaniques ? On a l'impression que c'est presque plus les personnages qu'on croise tout au long du livre que l'Auvergne en elle-même. finalement.
Oui, ouais, vous avez raison. J'aimais bien cette ambiguïté du titre. La référence, on va faire un peu de cuistrerie, un peu de pédantisme. La référence, elle est virgilienne, donc les bucoliques, les géorgiques. Et j'aime bien ce genre de titre avec ce pluriel dont on se demande si c'est pas, au fond, une sorte de neutre. Les volcaniques, c'est quoi? C'est à la fois les terres qui sont volcaniques, mais aussi, en effet, les êtres qui peuplent ces terres, que ce soit des morts, des gens du passé ou des gens bien vivants, des gens connus ou des gens anonymes. Je déteste ce terme d'anonyme. Personne n'est anonyme. C'est pas parce qu'un nom n'est pas connu que ce n'est pas un nom. Il n'y a pas d'anonyme. Mais en tout cas, que toutes les personnes qui ont traversé cette terre ou ont été traversées par cette terre, d'une certaine manière, font corps avec ce volcanisme. Et oui, j'aimais cette ambiguïté que vous avez relevée. Oui.
C'est vrai qu'il n'y a pas d'anonymat dans ce livre. Vous laissez autant de place à des personnages connus de tous, où vous citez Blaise Pascal, vous citez Jeanne d'Arc, par exemple, et vous leur laissez autant de place d'importance, voire peut-être même moins qu'à votre famille, à ces inconnus qu'on va croiser au détour d'une rue, au détour d'un cimetière, qui sont des lieux communs dans lesquels vous êtes allé et dans lesquels vous avez essayé d'enrichir toute la matière qu'on peut retrouver dans ce livre.
Oui, tout à fait. Je voulais pas du tout faire une espèce de litanie nostalgique d'une sorte de j'allais dire quasiment de chauvinisme auvergnat avec le passage obligé par tel nom, tel nom, tel nom. Ce qui, me semble-t-il, est intéressant dans une démarche qui se prétend littéraire. Alors, c'est pas à moi de juger du résultat, mais en tout cas, la littérature, c'est une exigence, c'est pas un résultat. Donc, quand on a l'exigence d'essayer de produire un récit dont on travaille le style et la construction, et bien, il y a un moment, et vous le dites vous-même, il y a ce dévoilement, ce travail-là implique un rapport à l'intimité. Et donc, pour moi, il s'agissait d'essayer de redonner vie pour les lecteurs à ce paysage qui est d'abord un paysage intime. Il ne s'agissait pas, en effet, de prendre les noms des rues et de dire, voilà, un tel est connu, on va faire sa vie, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Ce n'est pas le guide Michelin, si vous voulez. Même si là aussi, c'est une gloire locale.
Oui, on aurait pu faire un chapitre là-dessus.
Tout à fait.
Alors, malgré tout, là où je vais peut-être vous reprendre un peu, Simon, ouais, Berger, c'est que dans ce livre, il y a du chauvinisme et il y a de la nostalgie. Quand même.
Du chauvinisme, je ne sais pas, le chauvinisme impliquerait peut-être l'idée que je trouve...
Inconscient, peut-être.
Ah, oulala. Donc là, ça relève de la psychanalyse, c'est encore autre chose. Mais le chauvinisme impliquerait l'idée que je décrète que l'Auvergne est au-dessus des autres terres ou des autres régions, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, on en sort un peu de l'Auvergne. On suit, dans le dernier chapitre, le cours de la Loire. On fait quelques incursions en Bourgogne aussi. Il y a quelques pas de côté, même si, évidemment, dans une logique à la fois centrifuge et centripète, mais c'est toujours l'Auvergne au centre.
Toujours là en toile de fond. Hein,
exactement, parce que c'est l'exigence de la collection et l'exigence que je me suis fixée quand j'ai voulu écrire un livre sur l'Auvergne. Mais chauvinisme, je ne sais pas. Nostalgie, sans doute, à partir du moment où on s'intéresse au passé et où on s'intéresse à des vivants qui, comme je le répète, hein, connus ou non, importants ou non pour la grande histoire... Quand on s'intéresse à ces vivants-là, on a la nostalgie de leur passage, dans le sens où on aimerait les avoir en face, on aimerait rendre leur chair présente. Alors peut-être nostalgie dans l'espèce de volonté un peu chimérique de vouloir ressusciter une présence, peut-être dans ce sens-là.
On a quand même l'impression qu'il y a parfois ce regret du passé, quand vous parlez par exemple de la maison de Blaise Pascal,
ouais,
quand vous parlez des modes de vie,
ah, oui,
des braillots, des cantaloupes par exemple. Du coup, ouais, je me permets de reprendre une expression, ouais, qui est présente dans le livre, et j'ose la question, ouais, est-ce que c'est un livre de vieux cons?
Oui, je réfute moi-même, j'anticipe moi-même l'objection dès le premier chapitre, vous voyez que ça m'a...
Oui, qu'on vous le dise pas trop, quoi.
Voilà, exactement. je dis que, au contraire, le fait... Alors, puisque vous parlez de la maison de Pascal, qui a été démolie il y a à peu près un siècle, oui, moi, je crois que c'est en deçà de la nostalgie ou du chauvinisme de dire qu'il est regrettable de détruire des monuments historiques. Ça devrait tomber sous le sens. Quand on voit la plupart des centres-villes, malheureusement, on se rend compte que ça ne tombe pas sous le sens. Mais encore une fois, il faut être nuancé. Refuser la destruction des monuments historiques ne veut pas dire refuser la modernité ou l'architecture moderne. Je prends l'exemple de Paris. si on est nostalgique, ça veut dire qu'on arrête l'histoire si on est totalement nostalgique. On arrête l'histoire à une date précise. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne vais pas arrêter l'histoire de Paris à Haussmann, dont je juge qu'il a démoli Paris. Je ne suis pas le seul à le juger. Il y a des gens un peu plus intelligents que moi qui l'ont fait, comme Zola. Je ne vais pas arrêter l'histoire à Haussmann, qui est à mon avis un drame, alors que, par exemple, je trouve que l'Institut du monde arabe de Jean Nouvel est sublime et a apporté quelque chose au paysage parisien. Ou le Centre Pompidou, qui sont de grandes œuvres d'architecture, parce que une architecture, elle est justifiée quand elle apporte quelque chose tout en se fondant dans le paysage. Par exemple, la synagogue de Guimard au milieu des immeubles du XVIIe siècle dans le Marais, c'est sublime. Parce que voilà un architecte qui a compris ce que c'est qu'un paysage et ce que c'est qu'un entourage. En revanche, quand on démolit une maison, pour une maison surtout la, en plus la maison de Pascal, quand même une gloire clermontoise.
Qui a une résonance, qui a un symbole.
Voilà, et qui quand même, c'est quand même Blaise Pascal, je sais pas moi qui vais vous dire que c'est quand même quelqu'un qui compte.
Oui, cette année, il a un peu compté à Clermont aussi.
Exactement. Et qu'on démolit cette maison pour laisser la place aux voitures. Mais là, je me dis, c'est une défaite de l'intelligence et c'est une défaite du cœur. Et là, oui, dans ce cas-là, ça me scandalise.
Alors, en parlant d'architecture et de monuments, il y a une grande dame que vous adorez citer, détourner, glorifier, c'est la cathédrale de Clermont-Ferrand, Notre-Dame de l'Assomption. Un extrait, par exemple, dans votre bouquin. Ainsi, nous y revoilà devant la cathédrale et il faut entrer maintenant. Oui, je sais ce que vous allez dire. Elle est courtaude. Ne la méprisez pas. D'autres ont daigné jeter les yeux sur l'humilité de cette servante. Moi aussi, j'ai longtemps poussé ses portes en visiteur, en curieux et d'abord en clermontois. La cathédrale est une institution comme Michelin et le Saint-Nectaire, un musée. Figée au centre de la ville, cette immobile reine de Saba se laissait bien docilement parcourir. Mais enfant d'une famille où Dieu ne gît plus que dans les jurons, je n'y touchais qu'avec les yeux. Voilà ce que vous dites sur la cathédrale de Clermont et des lignes comme ça, il y en a tout un paquet dans ce livre Les Volcaniques. Comment vous la voyez, cette cathédrale de Clermont aujourd'hui? J'ai l'impression que pour vous, là, on est sur un symbole, on est sur quelque chose qui revêt une importance particulière. Ne serait-ce parce qu'elle ouvre et ferme votre livre. Oui. C'est votre alpha et votre méga, cette cathédrale.
Oui, tout à fait. J'ai voulu ouvrir le livre sur elle. Elle a dicté la structure du livre parce que je lui applique la phrase du Cantique des Cantiques que Vialat appliquait déjà à l'Auvergne tout entière. « Je suis noire, mais je suis belle ». Et il se trouve que le Cantique des Cantiques est divisé en 8 chapitres et j'ai divisé mon livre en 8 chapitres, en 8 récits. Oui, pourquoi? Parce qu'elle a veillé mon enfance. Moi, j'ai grandi rue Fongièvre où on la voyait sur sa hauteur, donc je l'ai vue tous les matins, tous les soirs, parce qu'elle est belle, parce que là aussi, impossible de figer son histoire, puisque c'est tout autant une cathédrale du XIIIe siècle que du XIXe siècle, et même avec les travaux actuels, ce sera une cathédrale du XXIe siècle. Il y a d'ailleurs de splendides vitraux contemporains dans cette cathédrale. Elle a la particularité d'être gris-noir, ce qui ne se rencontre pas en France, pas ailleurs en France. Elle est belle, elle est touchante. Elle n'a certes pas les dimensions cyclopéennes de la cathédrale de Chartres, par exemple, mais elle a cette espèce de supplément d'âme, justement, cette fragilité, l'utilisation même de la pierre de Volvic, qui, quand on la regarde, semble toute creuse, semble être une espèce d'éponge fossilisée, à quelque chose de touchant. On la sent à la fois royale et fragile. Et j'aime ça. Pour moi, il est là, le rapport au passé. C'est pour ça qu'il n'est pas entièrement nostalgique, parce qu'on en est les dépositaires, mais ça veut dire que ce n'est pas une chose morte. On doit toujours réactiver cet héritage parce qu'il nous parle à nous, parce que nous sommes vivants et parce que c'est un héritage vivant.
Tant qu'on fait vivre le passé, on n'est pas dans la nostalgie.
Oui, exactement. Alors après, il n'y a rien de criminel à être nostalgique.
Il le faut parfois.
Parfois, il le faut. Quand on rase d'un hôtel particulier d'Ancien Régime pour construire un hôtel de région, ou quand on rase une structure Eiffel et tout un quartier d'artistes pour construire le Centre Jaude 2, je pense que là, la nostalgie a sa place. Mais parce que c'est, encore une fois, ça va en deçà de la nostalgie, c'est quasiment... Pour moi, comme il y a des droits de l'homme, il y a des droits de la pierre. Donc la pierre a ses droits parce que, en tant que création de l'homme, et elle a sa dignité. On fait de la provoque politique à deux balles, mais en dehors de toute considération municipale, il me semble qu'on a à être fier, encore une fois, en dehors de toute considération politique.
Mais parce que vous la touchez, cette fierté, quand même, dans ce livre. Vous en parlez d'être fier, quand même, d'être auvergnat et d'être fier de ce qu'on a ici.
Mais je pense qu'être fier, et c'est là où je crois qu'il faut échapper au chauvinisme, c'est pas simplement dire on a la plus belle, j'ai quasiment dire on a la plus belle, on a la plus grosse, parce qu'en plus, c'est pas le cas, elle est justement plutôt courtaude. Mais c'est de dire nous vivons à côté de ces pierres-là, il faut en être digne. Nous devons en être dignes. Et donc, à mon avis, là, on échappe au chauvinisme.
Simon Verger, dans ce livre, et l'exemple parfait avec cette cathédrale-là, vous vous évoquez énormément de références à l'histoire, avec un grand H, et aussi à la religion. Est-ce que, finalement, le vrai thème du livre, il n'est pas là ?
C'est pas impossible. Des Clés de Brouwer, c'est une maison d'édition catholique, et la collection Arpenter le Sacré invite justement un auteur à approfondir son rapport à un lieu à travers le prisme du sacré. Alors, ce qui est justement intéressant dans le titre de cette collection, c'est cette ouverture. Le sacré, ça n'assigne pas à un dogme. Quand même soi-même, on est d'une chapelle ou d'une autre, il faut viser l'universalité, l'universalisme. Et c'est aussi une exigence que j'ai essayé de tenir dans le livre. Là aussi, notre rapport au passé ne doit jamais être dogmatique. Nous sommes d'abord des enfants émerveillés. Et je pense qu'il faut rester des enfants émerveillés devant les vieilles pierres, et les pierres plus récentes d'ailleurs, parce que la vieillesse, la valeur des pierres n'attend pas le nombre des années. Hein. Mais quand Olivier Germain-Thomas, qui dirige cette collection, m'a proposé d'écrire, j'avais déjà depuis quelques années, le projet d'un livre sur l'Auvergne, sur mon rapport plus intime à l'Auvergne. J'ai sauté sur l'occasion, et il se trouve que je crois que l'Auvergne a pour employer un gros mot, ce tropisme spirituel, cette tendance en elle, avec à la fois des relents de paganisme, justement, de ce rapport sauvage aux éruptions primordiales, quasiment, et puis son histoire chrétienne, évidemment, ses cathédrales, ses églises romanes que évidemment, les gens connaissent bien. En effet, l'Auvergne, il y a quand même là-dessus, là aussi, comme avec Pascal en philosophie, alors en architecture et pour ce qui est de ses paysages, elle a des choses à dire du point de vue de l'esprit, des forces de l'esprit, comme dirait un ancien président.
Bien des choses à dévoiler en tout cas. Ce qui me pose quand même cette question, et là on va plus parler de la forme, est-ce que l'Auvergne se décrit facilement ? Est-ce que vous avez peiné à choisir et mettre des mots sur l'Auvergne que vous traversez de Pont-au-Mur à Sauxilhange en passant par le Chaix-sur-Morge ?
Oui, c'est une très bonne question, parce que quand on parle de l'Auvergne, on a des prédécesseurs. On a Vialat, quand même, qui a extrêmement bien parlé, et en plus avec beaucoup d'humour et beaucoup de génie et un sens de la formule inégalable de l'Auvergne. Je pense à son livre La Basse Auvergne, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Plus récemment, il y a Les Derniers Indiens de Marie-Hélène Lafont, qui est, à mon avis, un très grand livre. Qui explore très bien aussi la fin du monde rural, une certaine page qui se tourne dans le monde rural, là dans le Cantal, donc ça me parle aussi puisque le Cantal est présent dans le livre. On peut penser à Pays perdu aussi de Pierre Jourde, évidemment. Donc on a quand même quelques précédents, donc on n'arrive pas en terre vierge. Et en même temps, c'est ce qui permet de se dire qu'on n'est pas complètement fou. On se dit... Bon, il y en a d'autres avant moi et de meilleurs que moi qui ont estimé que l'Auvergne était quand même une terre sur laquelle il y avait des choses à dire. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, ce sont des gens qui disent à la fois la même chose et des choses très différentes. C'est-à-dire qu'à la limite, ils se retrouveraient tous pour dire que l'Auvergne est noire mais belle. Et après, ils déclineraient tous d'une manière ou d'une autre, mais d'une manière très différente les uns des autres, cette proposition initiale pour faire chacun leur Auvergne. Et je pense que c'est... en dernière analyse, ce qui est le plus intéressant, c'est non pas d'avoir une Auvergne dogmatique, mais au contraire, de le plus possible, de battre et de rebattre ces sentiers qui sont jamais justement totalement battus en Auvergne. Et c'est peut-être ce que la quatrième de couverture de mon éditeur incite à penser.
Je reviens sur le style de cet essai, Les Volcaniques, que vous avez choisi. Un style très particulier, ça démarre fort. Dès la première page, voici quelques mots. Quelle nuit rocailleuse, mate, sableuse, sablonneuse peut-être, la nuit d'une roche à peine extraite. De quelle carrière cette nuit, de quelle anfractuosité cette cathédrale, du vieux dégueulis d'un volcan, de la concrétion de fureurs anciennes où l'homme n'était pas, on a surgi l'église. Pourquoi cette manière d'écrire ? Pourquoi ce choix des phrases, avec parfois des phrases averbales, avec des moments très descriptifs, avec beaucoup d'adjectifs, des mots, on va pas se mentir, très soutenus, parfois compliqués. Qu'est-ce que vous avez recherché avec cet essai en termes de style ?
Vous voyez d'ailleurs la première page que vous venez de lire, c'est assez symptomatique de la question que vous me posiez précédemment. La difficulté à parler, à essayer de trouver la note, de trouver le mot juste pour parler de l'Auvergne, elle se traduit par cette espèce de bégaiement aussi initial. Les mots se reprennent, se complètent, se contredisent, se réfutent, s'augmentent. Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire, d'être le plus précis possible en essayant d'éviter. Alors, j'ai réussi, c'est pas à moi d'en juger, mais précision contre préciosité. Il faut pas de préciosité pour parler d'une terre simple. pas de préciosité pour parler d'une terre rugueuse, mais de la précision. Après, les mots rares ou compliqués, ils sont, quand ils sont là, c'est pas quelque chose que j'adore, hein, mettre des mots rares pour le mot rare, c'est vraiment du show-off, comme on dit, ça n'a pas d'intérêt. Mais l'important, c'est qu'ils soient là quand ils ont quelque chose à dire, quand il n'y a pas d'autre mot pour dire ce qu'ils veulent dire.
Et l'avantage en langue française, c'est qu'on a quasiment un mot pour signifier chaque petite
chose.
Ah bah
oui, chose.
C'est la richesse
ça,
de cette langue.
Ça, c'est génial. Alors, on n'a pas, comme les Anglais, des kyrielles d'adjectifs pour décrire des lumières, des couleurs, des nuances visuelles, mais on se rattrape sur plein d'autres plans. Mais oui, il est vrai que à la fois, j'ai essayé de tenir l'équilibre entre la simplicité de l'expression, parce qu'après tout, Racine, qui est le plus grand écrivain français, prouve qu'avec 100 mots de vocabulaire, on peut faire les plus belles phrases du monde. Donc, il faut quand même, pour respecter notamment quand je parle de gens simples, qui sont par exemple mes ancêtres, il ne faut pas les accabler ni de références, ni de mots complexes. Il faut au contraire épurer la syntaxe. Il faut rendre justice à cette simplicité. Et parfois aussi, il faut essayer de retranscrire le lyrisme, les rigueurs et les rudesses et les chaos du climat et du relief, et de les rendre dans la langue et de rendre une syntaxe aussi un peu chaoteuse.
Voilà un essai que vous pouvez découvrir. On n'a pas tellement parlé des personnages, des différentes histoires à découvrir, mais ça, on va laisser le soin d'enquêter, de vraiment se faire aussi sa propre opinion.
Ne divulgâchons pas, comme dit l'Académie française.
Exactement, n'en disons pas trop, comme ça permettra vraiment de découvrir les histoires, les personnages, les lieux aussi, et que ça aille voilà, du cimetière, du Duché-sur-Morge, comme sur des massifs. Enfin, voilà, vous passez à plein d'endroits différents sur ces 127 pages des volcaniques, Simon Berger. Mais que 127 pages, j'imagine que vous n'avez pas fait le tour de l'Auvergne. On pourra
non,
en sortir
non,
encore
non, non.
10 des bouquins sur l'Auvergne.
Exactement, et j'espère que d'autres que moi le feront. je ne veux pas être l'écrivain public des terres auvergnates. J'espère, et je crois d'ailleurs, et d'autres le font, et évidemment, je sais que l'Auvergne est une terre qui inspirera longtemps, j'ai aucun doute là-dessus, je lui fais confiance.
En attendant ce livre, il va sortir le 10 janvier 2024 aux éditions Desclés de Brouwer, une édition qui fait rentrer ce livre, Les Volcaniques, dans la collection Arpenter le Sacré. Et vous, on pourra vous retrouver le lendemain, le 11 janvier, à Clermont-Ferrand.
Au Volcan.
Vous serez là en dédicace
Exactement.
pour nous faire découvrir ce livre, Les Volcaniques. Merci beaucoup,
c'est mon
Berger, d'avoir été avec nous.
Merci.